talmudique. Les 10 commandements commencent par cette phrase « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude ». Tout se passe comme si Dieu donnait à lire sa carte d'identité. Si tu veux savoir qui je suis, voilà ce que tu peux en dire. Je suis un Dieu qui t'ai fait sortir de l'esclavage, un Dieu de libération et un Dieu de la liberté. La sortie d'Égypte est le véritable cœur et la colonne vertébrale du judaïsme et de s'en souvenir est un engagement majeur. La sortie d'Égypte oriente le texte de la Torah en amont et en aval. Aller vers la terre de la promesse, c'est en passer d'abord par l'Égypte, pour s'y former, grandir, mûrir, puis en sortir. L'impératif du souvenir est complexe. Comment construire le souvenir alors que nous sommes toujours plus enclins à oublier? Le judaïsme a cherché à donner des réponses à cette question, dont la plus essentielle est d'instaurer une fête de la mémoire et du souvenir. Non pour fêter la mémoire, le souvenir, mais s'y exercer, apprendre à les mettre en œuvre, à les travailler, à dynamiser les mécanismes psychiques qui y sont impliqués. Une fête, car cet apprentissage doit être festif, ludique. Il doit commencer très tôt dans une vie et se répéter chaque année. Une fête qui concerne tout le monde, à commencer par les enfants, sans oublier les adultes qui, pour l'occasion, doivent aussi, quelque part, redevenir des enfants et savoir jouer avec les mots et les objets. « Objeu », aimait à dire Pierre Fédida, reprenant un mot de Francis Ponge, un jeu qui émerveille et rend joyeux, « objoie ». Cette fête se nomme Pessah. C'est la Pâque juive. Elle dure 7 ou 8 jours, c'est selon, et qui commence le premier soir par un véritable laboratoire de la mémoire, un véritable atelier du souvenir, un moment exceptionnel où la famille, les amis et le passant qui veut bien se joindre à la fête se retrouvent autour d'une table pour un grand jeu qui va durer toute la nuit. C'est le seder, un mot qui veut dire ordre, c'est-à-dire un rite avec des règles précises, un ordre précis, mais qui laisse aussi place à l'improvisation. Ce rite, qui est aussi un jeu, nécessite d'en comprendre les règles et le fonctionnement. Et pour ce faire, les maîtres du Talmud ont écrit un manuel qui est distribué à chaque participant au début de la soirée et qui les guide étape après étape, qui sont au nombre de 14. Ce manuel s'appelle la Haggadah de Pessah, littéralement le récit de Pâques. C'est le livre de la littérature juive qui compte le plus d'éditions différentes, 1000 fois traduit, commenté, expliqué, avec cette particularité d'avoir été le lieu d'expression privilégié pour les artistes, les musiciens, les calligraphes, les miniaturistes et pour les peintres. Trouver le bon manuel, la bonne Haggadah est difficile, car le jeu est complexe. Et il fallait que se rencontrent les immenses talents d'un rabbin et d'un peintre pour nous offrir aujourd'hui une nouvelle Haggadah qui va faire date dans l'histoire de l'édition. Rabbin Rivon Krigier et Gérard Garout, bonjour.
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 C'est un très grand plaisir de vous recevoir tous les deux dans Talmudique pour parler à la fois de Pessah, de la Pâque juive qui commencera cette année le vendredi soir 19 avril, mais aussi de la Haggadah que vous venez de faire paraître aux éditions In Press, intitulée « La Haggadah aux quatre visages », un livre en deux parties qui se suivent, le texte de la Haggadah d'une part, traduite et translittérée, suivi d'un original riche et profond commentaire que vous avez rédigé, Rabbin Krigier, et qui porte le nom de la saveur de l'azim. Le tout en dialogue avec les très belles gouaches et encres, drôles et mystérieuses, que vous avez réalisées, Gérard Garoust, pour cet ouvrage. Ma première question portera sur le titre « La Haggadah aux quatre visages ». C'est très beau et très poétique, mais pourquoi ce titre? J'y ai vu un joli jeu de mots, Rabbin Krigier.
Oui, ben vous avez beaucoup d'acuité dans l'œil, en effet. En hébreu, Arba Banim, les quatre fils. Et on est, le quatre visages se dit Arba Apanim. Il y a juste une lettre de différence entre le bet et le p. C'est déjà un premier jeu, puisque vous évoquiez la dimension ludique. Au fond, c'est une question déjà en soi très intéressante. À qui s'adresse la Haggadah? Elle s'adresse à des enfants. Si notre texte porte ce titre, c'est précisément parce qu'il y a un récit très important de la Haggadah qui raconte qu'il y a quatre types d'enfants qui sont à la table. Et chacun avec son caractère, chacun avec son degré de maturité. Ce sont quatre visages, mais du coup aussi quatre stratégies didactiques, quatre manières pour le parent qui doit lui-même avoir quatre facettes pour lui transmettre la mémoire de la sortie d'Égypte. Parce que c'est le rite de transmission par excellence. Voilà pourquoi il s'adresse à des enfants, mais aussi à des visages, quels qu'ils soient d'ailleurs, hommes ou femmes.
Et donc dans la Haggadah, il y a cette expression « Arba Banim », les quatre enfants, qui deviennent « Arba Panim », les quatre visages. Donc c'est le premier jeu de mots de votre Haggadah. Gérard Garouste, dans les gouaches et les encres de cette Haggadah, on reconnaît tout de suite votre style et votre côté joueur, car si sur la couverture il y a bien quatre dessins, on peut en même temps voir six visages, puisque l'un des enfants a un double visage et que sur un autre dessin, le visage du sphinx pointe le bout de son nez, si l'on peut dire. Une logique pas très logique, dans laquelle 4 égale 6. Qu'avez-vous voulu dire par là? Et merci de nous commenter ces images, Gérard Garouste.
Vous savez, l'idée d'abord, c'est de s'imprégner complètement du commentaire. Je me suis imprégné du commentaire de Rivon. Et donc, il faut être complètement dans le récit. Et puis après, au moment où je fais ces gouaches, il n'y a pas de décision. Il y a un côté intuitif. Il faut que ça soit l'intuition qui parte. Et il n'y a pas de décision. C'est très étrange, mais j'ai pas décidé de faire un double visage avec la moitié du fond noir, l'autre moitié blanc. Si ça était passé par la décision, pas du tout naturel. Je sais pas. Je serais mal à l'aise. Là, j'étais très très vite. D'ailleurs, ce sont des gouaches. J'étais très très vite à faire ces quatre gouaches. Même l'ordre n'est pas celui des quatre visages. Il faut absolument que ça soit très spontané. Mais par contre, ce qui n'est pas spontané, c'est toute la... vous savez, j'ai toujours un carnet, et dans mes carnets, là, par contre, il y a beaucoup de recherches, beaucoup d'essais, comment vont être ces personnages, est-ce que je vais faire la nuit, avec la pleine lune, là, mais au moment de les faire, il faut que ça parte, et je ne réfléchis pas.
La force de la peinture de Gérard, c'est son côté suggestif et j'ajouterais ludique. Précisément parce qu'en regardant ces visages de la couverture, on est déjà questionné. On se demande pourquoi les uns et les autres ont un aspect finalement très très différent, un regard très très différent. Ils révèlent des choses absolument essentielles de leur personnalité. Celui qui est qualifié de méchant, mais que je préfère appeler rebelle, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, parce que bien sûr, Gérard ne dit pas qui est qui, hein, mais selon une des peintures, un des personnages a en fait un double visage. Et pour moi, c'est toute la beauté et l'intérêt du personnage rebelle, qui regarde des deux côtés, qui peut aussi permuter, qui peut aussi facilement basculer du côté de la sagesse, comme le sage peut basculer du côté de la rébellion. Il est partagé dans un regard tourné vers l'obscurité, l'autre vers la lumière. C'est le risque binaire, le risque de regarder le monde de manière trop catégorique, mais aussi la possibilité peut-être de faire la jonction. Si je prends le personnage de celui qui est simple, il regarde vers le ciel. Lui, il est tourné vers l'en haut. Il regarde la main de Dieu comme une attente. C'est une simplicité à la fois naïve, mais qui manque aussi peut-être de ressources personnelles. Si je regarde le sage, il est complètement intériorisé. Il est dans son monde intérieur et peut-être en rupture avec l'environnement. On peut s'interroger sur sa sagesse. Il est très profond, mais il est peut-être aussi déconnecté. C'est un moment de la Haggadah aussi qui est posé lorsque les sages réunis à Bébrac, nous raconte la Haggadah, sont en cercle fermé et oublient que c'est la prière du matin. Et enfin, il y a le visage magnifique de celui qui ne sait pas poser de questions et qui s'interroge et qui a besoin de repères, qui ouvre les mains. En fait, son visage s'ouvre avec les mains. Chacune de ces planches de Gérard est un véritable poème et une source d'inspiration et d'interprétation.
Des commentaires magnifiques, Rabbin Krigier, que vous donnez à ces images, qui nous questionnent encore avec un jeu que vous avez voulu, Gérard Garouste, car ces images apparaissent une deuxième fois à l'intérieur du livre, mais dans un placement différent sur la page. J'ai pensé littéralement à une anagramme graphique en quelque sorte.
Oui, l'anagramme, le tsérouf, c'est quelque chose que nous avons étudié ensemble, puisque j'ai la chance de faire une ravouta avec vous. Et c'est un jeu d'esprit dans lequel je suis maintenant assez familiarisé. Mais là, il faut bien comprendre que par rapport à ces quatre enfants, j'ai pas pris de notes en disant lui il doit être comme ceci, lui il doit être comme cela, lui tiens je vais faire un tsérouf, là je vais pas en faire, etc. Non, il faut à la limite il faut peindre comme un peintre abstrait, c'est-à-dire il faut jeter en étant le plus réflexe possible, de manière à ce que il faut faire confiance à ce qui va se passer d'une manière inconsciente. Et pour que l'inconscient parle tel que Rivonne vient de le définir, il faut être assez riche au départ, assez riche du commentaire de Rivonne. Donc là, ma richesse, elle est là. Et après, après, c'est réflexe. Je me suis pas posé la question du tsérouf. J'ai même pas regardé l'ordre de mes images. Est-ce que ça allait être la même organisation?
Alors, c'est un tsérouf inconscient, mais qui est extrêmement important parce que ça nous dit quelque chose de l'intériorité, de l'extériorité. Intériorité renvoie à la dimension du caché, à la dimension de l'invisible, et Rabin Krigier, la dimension du caché de l'invisible, est au cœur du jeu de cette soirée.
Je voudrais juste brièvement réagir, parce que je trouve tout à fait intéressant et passionnant qu'il y ait une inversion des images, car un des apports de cette Agada, c'est de montrer qu'il y a différentes versions, et que dans le Talmud de Jérusalem, chacun des personnages apparaît, mais avec d'autres réponses et parfois même un questionnement qui est légèrement différent. Ce qui prouve que l'esprit doit être constamment sollicité et quelque part, on doit s'obliger à sortir de nos certitudes comme on sort d'Égypte. L'Égypte est souvent, en raison de la racine du mot Égypte, rapproché de l'étroitesse. Il faut sortir de son étroitesse. Et donc, Gérard permet de voir ce mouvement par la redistribution des images. Et c'est exactement ce mouvement qui s'opère en début de cérémonie, lorsque le pain azim, la matzah, est pris et brisé en deux parties. Une partie qui est montrée comme pain de pauvreté, mais qui en soi est déjà très très suggestif. Et puis une autre qui est dissimulée, qui est enfouie et qui va réapparaître beaucoup plus tard dans la soirée, du même coup, crée une polarité, une tension dans la cérémonie entre ce qui va se jouer dans l'instant, le moment d'étude, le moment de travail, et puis le moment de célébration, de fête qui va clôturer la soirée.
Alors, avec cette idée du « cela va arriver plus tard », mais en même temps quelque chose qui est caché, que les enfants vont devoir rechercher, et ce morceau qui est caché se dit Tsafoun, enfin le moment Tsafoun, ce qui est caché, et j'aime à souligner que Tsafoun va se retrouver, en tout cas en hébreu moderne, dans le mot Matspoun, qui veut dire la conscience. La conscience serait déjà, inclurait déjà dans le mot qui l'a dit, la dimension du caché et de l'inconscient, même si la racine est différente, puisque Tsafoun indique, c'est le Tsafon, c'est le nord, et que Matspoun, qui veut dire la conscience, c'est de ne pas perdre le nord, c'est-à-dire d'avoir toujours un but. Mais le jeu de mots se fait, Rabin Krigier.
Puisque vous faites un jeu de mots, permettez-moi de commenter encore la peinture de Gérard. Au moment du Yachatz, de la brisure, la lettre Tzadé est brisée en deux parties. Le Tzadé, qui est dans le mot Tsafoun que vous avez rappelé, mais qui est aussi la lettre du mot Tzadi, et le mot du juste. Et là, c'est toute cette idée que le juste ne doit pas être dans cette espèce d'autosatisfaction et d'entièreté. La brisure en lui permet ce développement, cette dynamique, et c'est comme ça que sa conscience émerge.
Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette idée tout d'un coup du caché, c'est que on est dans un repas avec les amis, la famille, tous les aliments sur la table. Donc on est dans vraiment quelque chose de matériel. Et puis à un moment donné, il y a justement une ouverture, quelque chose qui échappe, qui est en dehors de ce repas finalement. Il y a un point d'interrogation, un secret, et comme une porte qui s'ouvre comme ça, comme une serrure. Et ça, j'aime beaucoup l'idée, sans trop rentrer dans le détail de cette matza qui est brisée, là, tout d'un coup, il y a une ouverture ailleurs.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'aime, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis.
Je voulais illustrer cette émission sur la mémoire avec quelque chose à la fois d'évident et surprenant et chanté par une femme, où il est question aussi d'un homme. Voilà, c'est fait. C'est Jeanne Moreau dans « J'ai la mémoire qui chante », une voix magnifique. Un commentaire, Rabbin Rivon Krigier.
La question de la mémoire, c'est l'élément capital, comme je le disais tout à l'heure. C'est une fête de la transmission, Pessah. Et en réalité, on ne cesse d'oublier. Et toute l'idée, c'est qu'en ravivant la mémoire, de se sentir mobilisé et de réfléchir à l'actualisation. Parce que la mémoire n'a de sens que si elle se tourne vers le présent. Et là, je crois que c'est l'élément capital. Raviver la mémoire doit nous permettre d'avoir les yeux plus ouverts sur le monde qui est le nôtre et regarder au loin avec des aspirations. Ça, c'est la démarche capitale.
On parlait, juste avant cette chanson, on parlait de la conscience. Je me rappelle de cette définition de la conscience chez Bergson, un pont tendu entre la mémoire et l'espoir. C'est exactement ce que vous dites là.
Dans toute la Haggadah, il y a cette polarité entre aujourd'hui et hier, aujourd'hui et demain. Par exemple, l'an prochain à Jérusalem, à la fin du Seder, et au début, il dit ici, au début du Seder, nous disons nous sommes encore ici, et l'an prochain seulement à Jérusalem. On a toujours cette idée de mouvement et de regard projeté vers le lointain.
Alors, on a parlé des quatre enfants. Ce terme en hébreu, c'est banim. Dans l'hébreu biblique, il signifie particulièrement les garçons. Ce titre, le livre que vous avez écrit, qui s'appelle « La Haggadah aux quatre visages », transforme le mot « banim » en « panim ». Garçon devient visage, garçon-fils deviennent visage. N'est-il pas là aussi, pour questionner ce titre, la place du féminin dans le rite? Rabbin Rivon Krigier, qu'en est-il des filles? La question est d'autant plus forte que « masculin » en hébreu veut dire mémoire, comme si ici il s'agissait d'avoir la mémoire pour se souvenir du féminin.
On peut dire les choses comme ça. En tout cas, la tradition juive a particulièrement insisté sur l'idée que les enfants qui sont concernés à Pessah sont autant les garçons que les filles. C'est une fête pour laquelle il est dit explicitement dans la littérature rabbinique que les rituels font obligation autant pour les garçons que les filles. Les femmes sont tenues par le fait de boire les quatre coupes. Elles sont tenues par la consommation de la matzah. Elles étaient tenues de consommer l'agneau pascal lorsqu'il existait. Il y a même des textes rabbiniques qui disent que c'est grâce aux femmes, au mérite des femmes, que la libération d'Égypte a pu avoir lieu. Et le Baal HaChinour, un commentateur, mais aussi un décisionnaire important du 13e, 14e siècle, dit explicitement qu'il ne faut pas entendre banim au sens étroit, mais au sens générique, c'est-à-dire non pas garçon, mais enfant. Et voilà pourquoi on a voulu, avec ce titre panim, insister sur le visage, quel qu'il soit, masculin ou féminin, parce que les uns et les autres sont concernés. Et enfin, je dirais que dans le fameux rite de l'accoudement, qui est un élément important du rituel de Pessah, il y a eu toute une discussion à savoir si les femmes ou non étaient tenues. Et là, on a encore des choses très intéressantes à dire.
Gérard ?
Alors pour le peintre, ça pose un autre problème, parce qu'un enfant, en effet, tout d'un coup, est-ce que je peins un petit garçon ou une petite fille? Et visiblement, là, sur cette Agada, c'est visiblement quatre petits garçons. Et d'ailleurs, on m'a dit, mais pourquoi quatre petits garçons? Et là, tout d'un coup, on se dit, mais oui, alors c'est vrai, j'aurais dû faire deux garçons et deux filles, par exemple. Mais alors, si j'avais fait deux filles, la fille, ça serait celle la méchante ou la sage ou, et pourquoi on m'aurait dit, mais pourquoi? Donc c'est assez amusant. Ou alors, pourquoi ne pas faire quatre filles? C'est toujours des quatre garçons et quatre filles. Et alors, on s'aperçoit quand finalement, si j'avais sexualisé ces quatre visages, ça détournait le sujet. Le problème n'est pas le problème, comme le dit Rivonne, ces quatre visages en fait tournent autour d'un même individu, une personne. On n'est pas dans un problème de sexualité. Et je crois que à une autre époque, peut-être, on arrivera à faire les choses autrement. Quatre filles, peut-être.
Mais je pense que vous avez réussi à le faire dans la mesure où nous avons évoqué une des gouaches qui représente deux visages. Peut-être dans ce deux visages, il y avait masculin et féminin.
Puisque vous parlez des gouaches, je vous invite à regarder celle de l'enfant sage. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est difficile de savoir si c'est un garçon ou si c'est une fille? Au fond, quand on la regarde, ça peut être ou l'un ou l'autre, ce qui peut-être invite à penser qu'il y a un dépassement à faire en observant tout cela.
Et de toute façon, la peinture est faite pour pouvoir être interprétée d'une façon ou d'une autre. Moi, j'y voyais Peter Pan, mais c'est encore autre chose. Gérard Garoust, vous aimez à dessiner, à peindre, à illustrer le plat du céder, en insistant non seulement sur les objets, mais aussi sur les mots. Vous peignez l'hébreu autant que vous l'écrivez, parfois en écriture cursive, parfois en écriture carrée. Que signifie peindre l'hébreu pour vous, Gérard Garoust?
D'abord, j'aime beaucoup la calligraphie en général, que ce soit des lettres latines, des lettres grecques, j'aime la calligraphie. Et c'est vrai que quand je commençais à apprendre l'hébreu et à écrire l'hébreu, c'était un vrai plaisir. Je trouve que les écritures carrées sont très belles. Donc c'est simplement de l'ordre du plaisir. J'étais en effet pas du tout obligé dans ces planches d'écrire, mais là tout d'un coup ça se justifiait puisque c'était l'ordre du céder. Et cursif, écoutez, j'étais pressé quand j'ai commencé à savoir écrire le cursif, j'étais pressé d'écrire comme ça. Je trouve ça un plaisir, c'est vraiment un petit plaisir. Donc là tout d'un coup il y a des titres qui sont en écriture carrée. Et puis tout d'un coup, des petits commentaires qui me sont suggérés par Rivonne, et j'ai pris soit des versets ou soit des phrases pour accompagner ces planches.
Alors vous dites plaisir, j'ai l'impression que dans la manière dont vous écrivez, qui est de la peinture aussi, il y a un plaisir du corps justement, de tout le corps. Je pensais au peintre Georges Mathieu particulièrement. Et même si votre philosophie artistique est différente de son abstraction lyrique.
C'est vrai, vous savez, je prends le fauteuil de Georges Mathieu, donc
à
l'Académie française, donc je me penche à la chaise sur le problème. En fait, ce qui m'amuse par rapport à l'époque de Marcel Duchamp, qui est un artiste contemporain, qui fait des ready-made, c'est-à-dire des choses où lui-même en tant qu'artiste n'intervient pas, On a l'attitude complètement contraire d'un Georges Mathieu, dont le tableau, ce sont des signatures. En fait, c'est des immenses signatures, ces tableaux. Alors, bon, c'est intéressant, mais je suis plus sensible à des peintres comme Max Ernst, qui, dans lesquels il y a beaucoup d'écriture, ou certains tableaux cubistes, où il y a aussi des jeux d'écriture. Ça, j'aime bien. En général, j'aime beaucoup les tableaux où, qui mettent en scène des écritures. Je pense à un ami qui vient de nous quitter, c'est Jean Cortot, qui, toute son œuvre, était d'accompagner des poèmes, et ces tableaux, ce sont des jeux d'écriture.
Alors, en dehors de cet aspect très réglé de la soirée, les joueurs sont invités à improviser ou à proposer des traditions qu'ils ont vu faire dans leurs familles respectives et qu'ils ont envie de partager. Parmi ces rites, il y en a deux que j'aime particulièrement et que j'aimerais vous entendre commenter, le rite du plateau qui danse au-dessus des têtes et le rite de la promenade autour de la table, sandales, baluchons et bâtons à la main. Commençons, s'il vous voulez bien, Rabbin Rivon Krigier, par ce rite du plateau qui danse au-dessus des têtes.
Oui, c'est un rite magnifique, un rite séfarade, les Ashkenazes ne connaissent pas. Il s'agit tout au début du Seder, de la cérémonie, du banquet, de prendre le plateau sur lequel se trouvent les différents ingrédients de la soirée et de le faire tournoyer au-dessus des têtes et parfois même en heurtant légèrement la tête de chaque convive pour déclencher une sorte de mouvement. On a vraiment l'impression que les convives sont invités à prendre leur envol et de sortir d'Égypte par le haut. Alors, ce rituel a son origine dans un rite qui a disparu et qu'on appelle le déplacement de la table, l'écartement de la table, parce que, précisément, il y avait une rupture qui se faisait au moment du banquet. On arrêtait le repas pour dire « passons maintenant aux choses sérieuses, on n'est pas là seulement pour manger ». On va maintenant se souvenir, on va maintenant lire, on va maintenant discuter et méditer le sens de la sortie d'Égypte. Et c'est beaucoup plus tard, seulement dans la soirée, que se prolongeait la seconde partie du repas.
Alors, je sais, Gérard Garoust, que vous pratiquez l'autre tradition, celle du voyage autour de la table. Quel sens cela a pour vous en tant que peintre ?
Écoutez, en tous les cas, pour le pratiquer à chaque cédère, c'est d'abord un moment assez ludique et justement chargé de mémoire. C'est-à-dire, il y a souvent dans les fêtes juives un côté festif et un côté très important. Justement, il faut retenir ça. Donc, le fait de me retrouver avec un baluchon et un bâton et d'avancer avec tous les enfants qui me suivent et de faire le tour de la table. D'abord, les enfants adorent ça. Et puis moi, personnellement, ça m'émeut parce que il y a très longtemps, quand j'étais, vous savez, j'ai fait des graves dépressions nerveuses. La plus longue a duré 10 ans. C'est long quand même. J'ai été hospitalisé, tout ça. Et dans toute cette période, je n'avais fait que Elisabeth, ma femme, essayait de me fortifier, de me pousser à peindre, etc. Et j'ai fait un seul tableau, et ça représente un homme avec un baluchon comme ça et un bâton, avec les pieds bizarres, on ne sait pas de quelle époque. Et quand Laurence Segal, qui était à l'époque la directrice du MAJ, a vu ce tableau, elle dit, mais c'est un juif errant. Alors là, à cette époque-là, et en tous les cas, c'est un personnage qui erre comme ça, qui avance difficilement avec sa besace. Et là, il y a un côté quand même dans le désert de représenter cette longue promenade dans le désert, mais c'est tourné un peu du côté ludique et c'est un très joli moment.
Merci Rabbin Rivon Krigier, merci Gérard Garoust, merci pour ce dialogue dansant, passionné et passionnant. La soirée du Seder est longue et nous avons à peine commencé à nous y installer. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine au surlendemain du premier Seder. Entre-temps, je vous souhaite à tous les deux et à tous les auditeurs une bonne préparation des fêtes de Pessah et des fêtes de Pâques qui tombent cette année exactement en même temps. Je rappelle le titre du très beau livre dont nous avons parlé aujourd'hui, La Haggadah aux quatre visages, traduction, présentation et commentaires, Rivonne Crigier, peinture, Gérard Garouste, aux éditions Inpress. Plus qu'un livre, un mémorial, à la fois ancré dans l'histoire et ouvert vers l'espoir. Merci encore, Rabbin Rivonne Crigier et Gérard Garouste.
Merci.
Merci.
C'était Talmudique, une émission de Marc Anna Waknin et Françoise Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui, Tahar Bourkhlifa, à la réalisation, Luc Jean Reynaud. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de nos invités sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Tov, Leitraot, au revoir, bonne préparation des fêtes de Pessah et de Pâques, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.